France Musique. Musicopolis. mars 1809, Paris. La vie musicale parisienne sous le Premier Empire est fort riche. Pour le bourgeois mélomane qui veut entendre de la musique, il y a pléthore d'occasions. S'il aime l'opéra, il aura le choix entre l'un des trois grands théâtres spécialisés dans le lyrique. S'il préfère le piano ou la musique de chambre, il investira l'un des multiples salons qui proposent des soirées musicales. Mais si son goût le porte vers l'orchestre, alors une adresse s'imposera, celle de la rue Bergère, où se tient la salle du Conservatoire impérial. Depuis quelques années, le Conservatoire impérial de musique a pris l'habitude de donner, dans une visée avant tout pédagogique, des exercices d'élèves. Il s'agit tout simplement de faire entendre les plus méritants des élèves de la maison et de les confronter au public. On donne entre 6 et 8 morceaux, de durées diverses et qui alternent voix et instruments. On commence avec une symphonie, on poursuit avec un air, puis on entend un concerto, encore un air ou un ensemble, encore un concerto et peut-être une ouverture pour terminer. Le 12 mars 1809 a lieu rue Bergère un événement très attendu. Le moniteur universel en rend compte quelques jours plus tard. Le dernier exercice du conservatoire avait attiré encore plus de monde que les précédents. La salle était pleine une heure avant qu'on ne commençât. Professeurs habiles, connaisseurs, amateurs de toutes les classes, la réunion était complète. Personne n'avait manqué à ce rendez-vous musical qu'on ne saurait trop presser le conservatoire de redonner souvent. La composition du concert justifiait cet empressement. Les noms de messieurs Méhul et Cherubini se faisaient lire sur le programme. En fallait-il davantage ? L'annonce d'une symphonie du premier de ces célèbres compositeurs était surtout l'objet d'une vive curiosité. Pourquoi donc, vous demandez-vous, attendait-on spécialement l'audition de la symphonie de Méhul en ce mois de mars 1809 ? Ce compositeur reconnu, qui avait déjà fait représenter 27 ouvrages lyriques à Paris, avait-il vraiment besoin de se produire dans le genre symphonique ? Des questions auxquelles Musicopolis va tenter de répondre aujourd'hui. Mm-hmm. Nous voici donc en pleine écoute de la symphonie de Méhul, celle-là même qui est entendue aux exercices d'élèves du Conservatoire impérial de musique rue Bergère à Paris le 12 mars 1809. Tentons justement de répondre à la question de la symphonie. Pourquoi est-ce original pour un compositeur de s'attaquer à ce genre en France dans la première décennie du 19e siècle ? 40 ou 50 ans plus tôt, au contraire, c'était une chose tout à fait naturelle. Et le musicologue Barry Brook a répertorié environ 1200 symphonies ou symphonies concertantes, publiées en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par 156 compositeurs. Mais seulement voilà, dans les années 1770 et 80, un phénomène se développe peu à peu dans les concerts. Ce phénomène observé dans les concerts parisiens, c'est l'incroyable engouement du public et des musiciens pour les symphonies de Haydn. Au point même qu'après avoir joué ses œuvres, les orchestres lui en commandent de nouvelles et n'ont de cesse de les faire jouer. Dans toute l'Europe, et en particulier à Paris, Haydn devient peu à peu, avec ses symphonies, le modèle ultime, l'étalon musical par excellence. C'est bien ce que dit le journaliste du Moniteur universel, je le cite. « Notre école française comptait de nombreux et habiles symphonistes avant que Haydn parût. On fut obligé de présenter ses chefs-d'œuvre comme des essais. Ce fut un travail que de les faire entendre. Et aujourd'hui, qu'on les sait par cœur, on ne veut plus entendre qu'elles. » Depuis qu'Haydn s'est emparé des orchestres de l'Europe comme de son incontestable domaine, poursuit le Moniteur universel, peu de compositeurs se sont essayés dans le genre de la symphonie, où il paraît avoir atteint le dernier degré de perfection. Mozart a marché sur ses traces, mais selon beaucoup d'hommes éclairés, à un long intervalle. On cite Beethoven comme ayant dépassé le but qu'il voulait atteindre et laissant égarer son génie dans les inextricables combinaisons de sa science. Thank you. pris l'habitude de juger la musique du 19e siècle par rapport à Beethoven. Mais il faut essayer de se remettre un peu dans les oreilles d'une ou d'un mélomane de 1809, assistant aux exercices d'élèves du Conservatoire impérial de musique. À ce moment-là, Beethoven n'a encore que 39 ans. Et les œuvres de lui qu'on peut entendre à Paris sont les plus anciennes, celles de ce qu'il est convenu d'appeler sa première période. Lorsque les auditeurs entendent la symphonie de Méhul le 12 mars 1809, ils ne connaissent encore qu'une seule symphonie de Beethoven, la première, entendue trois fois en tout en 1807 et 1808. On ne peut pas dire donc, comparé à Haydn, dont les symphonies sont jouées depuis près de 50 ans, ou comparé à Méhul, dont on entend les ouvertures très régulièrement, qu'ils sont très familiers de son style. En 1809, le critique du Moniteur universel, tout en remarquant Beethoven comme un compositeur intéressant, montre un peu d'incompréhension à son égard. Après avoir écrit qu'il laissait égarer son génie dans les inextricables combinaisons de sa science, il précise « Parmi les professeurs, cependant, il en est un grand nombre qui le proclament comme le plus habile. Ils l'entendent, le saisissent, le comprennent bien. Ils disent qu'Haydn aussi a passé pour obscur, pour inintelligible. » En attendant donc que le public s'habitue à cette musique, le journaliste propose de se contenter de Haydn et des maîtres nourris à son école, dont Méhul. Sans être imitateur d'Haydn, lit-on dans le Moniteur universel, M. Méhul est de son école, puisque chez lui, dans ses bonnes productions, les profondeurs de la science musicale ne font qu'ajouter un nouveau prix à la richesse et à la nouveauté des motifs. La symphonie qu'il a fait entendre était l'objet de l'intérêt le plus vif. Elle a été entendue avec une sorte de recueillement et jugée avec une sévérité qui honore l'idée que l'on a du talent de M. Méhul. Attribuée à tout autre, cette production eût excité plus d'enthousiasme. On aurait compté un musicien de plus. On a trouvé M. Méhul digne de lui, et c'était déjà beaucoup. On a justement distingué un andante dont l'effet général est très beau, et dont les détails sont pleins de charme. Et l'on sait que cette partie est en quelque sorte la pierre de touche de cette espèce de composition. Celle-ci a besoin d'être entendue de nouveau et d'être étudiée. On leur aurait redemandé si on était certain que le conservatoire en fera la partie principale d'un autre concert. Thank you. Donc, si l'on en croit le Moniteur universel, les Parisiens attendent beaucoup de leur Méhul. C'est qu'ils le connaissent bien depuis si longtemps qu'ils l'applaudissent, depuis son premier succès en 1790 à l'Opéra Comique, suivi de nombreux autres. Pourtant, l'époque est plutôt troublée, c'est le moins qu'on puisse dire, et de nombreuses contraintes politiques pèsent sur les productions lyriques et scéniques. Malgré quelques insuccès, Méhul est très apprécié, et on entend partout des scènes ou des airs extraits de ses ouvrages, et notamment ses ouvertures. Il ne se passe pas de saison de concert au conservatoire sans qu'on entende une ou plusieurs des ouvertures de Méhul. Celle de Stratonis, celle d'Adrien ou celle de La chasse du jeune Henri. Celle-ci est sans doute la préférée du public et on l'entend souvent aussi en ville dans de nombreux spectacles ou concerts. L'ouverture dite du jeune Henri de Méhul, avec ses cors et sa flamboyante description musicale d'une scène de chasse, a tout pour plaire au public parisien, qui, même s'il entend volontiers des pièces instrumentales, reste très attaché au théâtre et à la représentation dans la musique d'une action et d'une histoire. C'est peut-être la raison de la relative déception éprouvée dans la salle lors de l'audition en mars 1809 de la symphonie en sol mineur qui ne raconte rien. Pourtant, celle-ci avait de quoi exciter l'imagination des spectateurs, en particulier le troisième mouvement, le menuet. Si Méhul a voulu s'essayer à la symphonie, alors qu'il avait fait sa carrière à l'opéra, c'est justement pour être indépendant et parce qu'il est, comme il le dit, fatigué des tracasseries du théâtre. Thank you. Mais Hull n'en restera pas à sa première symphonie. Deux semaines après l'audition de celle-ci au conservatoire, il fait jouer la deuxième. Touché de l'article que le moniteur universel lui consacre, malgré un accueil public mitigé, Méhul lui écrit « Admirateur passionné de la musique de Haydn, j'ai senti tous les dangers de mon entreprise. J'ai prévu l'accueil réservé que les amateurs feraient à mes symphonies. Je compte en faire de nouvelles pour l'hiver prochain et je tâcherai de les composer de manière à mériter votre estime et à accoutumer peu à peu le public à penser qu'un Français peut suivre de loin Haydn et Mozart. » Le final Allegro agitato de la première symphonie d'Étienne Nicolas Méhul, Les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski. Le programme détaillé, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Claire Levasseur pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.